très vil PM. Paranormal.
The flying disc has been found.
El mítico Chupacabras.
Les enquêtes de Christian Page.
Christian Page, bonjour.
Salut Bernard.
Chronique insolite, donc, parle-nous de cette première photo d'un trou noir. On en a beaucoup parlé cette semaine. Tu vas aller plus loin, toi.
C'est une nouvelle qui a fait la manchette, comme tu le mentionnes, à travers le monde entier, parce que c'était la première photographie d'un trou noir. Il faut savoir que l'idée du trou noir a été imaginée au départ, dans la première moitié du 20e siècle, par Albert Einstein, notamment, au tournant des années 1910, lorsqu'il avait émis sa théorie de la relativité. Il avait imaginé un trou noir, donc une espèce d'anomalie gravitationnelle où une étoile qui va s'effondrer sur elle-même va déformer le tissu de l'espace et éventuellement, cette force gravitationnelle est si élevée qu'elle va attirer tout vers elle, incluant la lumière. Donc, déjà d'ailleurs, dans les années 40-50, lors de ses travaux, Einstein avait noté, avec d'autres astrophysiciens, ils avaient noté des anomalies gravitationnelles dans l'espace qui suggéraient le trou noir, mais on refusait d'y croire parce que ça semblait tellement invraisemblable que la nature puisse produire quelque chose de ce genre-là qu'on se mettait un peu une barrière. Et puis, on le sait, depuis les années 1990-2000, il y a eu énormément d'avancements dans le domaine de l'astrophysique. On sait que Stephen Hawking, entre autres, était un passionné des trous noirs. Il a abondamment écrit là-dessus, il a un peu mis sur la table, si je puis dire, la théorie ou à tout le moins la mécanique des trous noirs dans le domaine de l'astrophysique. Mais on n'en avait jamais vraiment vu. On avait détecté des anomalies qui laissaient suggérer la présence de ces trous noirs, mais on n'en avait pas eu d'image du trou noir. Et c'est un peu ce qui a été produit. Donc, en début de semaine, on a présenté, c'est un groupe de chercheurs, en fait, c'est 200 scientifiques qui représentent une cinquantaine d'associations, dont notamment l'Université de Montréal et l'Université de McGill. On a des chercheurs qui ont participé à ça ici à Montréal. Et ce qu'ils ont rendu public, c'est cette première image. Entendons-nous, Bernard, ce n'est pas une image prise avec un appareil photo. Ce n'est pas de cette manière-là que ça s'est passé. Ce sont des chercheurs qui travaillent, qui sont réunis sous le parapluie d'un gros projet qui s'appelle le Event Horizon Telescope. Ce n'est pas un télescope conventionnel. C'est en fait une série, une chaîne de radiotélescopes qui se retrouvent un peu partout, qui vont de l'Amérique du Sud jusqu'à l'Amérique du Nord. Donc, on capte des informations, des données télémétriques dans l'espace. Ces données sont ensuite transformées en images et c'est comme ça qu'on a réussi à obtenir cette première photographie d'un trou noir. Il se trouve à 55 millions d'années-lumière de la Terre. Donc, inutile de dire que c'est très, très loin. Ça se trouve dans une galaxie voisine, la galaxie Messier 87 ou M87. Et ce que l'on voit...
Ça veut-tu dire qu'il y a une Messier 86 puis une Messier 88?
J'imagine.
OK, continue.
Et ce que l'on voit dans sur la photographie, on voit une espèce de couronne lumineuse avec un centre sombre. Tu as compris que le centre sombre, c'est le trou noir. La couronne lumineuse, c'est de l'énergie, c'est de la matière qui est là et qui est en rotation autour du trou noir avant d'être absorbée à l'intérieur du trou noir en question. Parce que le trou noir, comme je l'ai mentionné, c'est une étoile qui s'est effondrée sur elle-même et dont la force gravitationnelle attire tout, incluant la lumière. Donc, elle est donc invisible, si ce n'est qu'elle forme un trou noir dans le tissu de l'espace. Et la matière qui gravite autour, évidemment, elle tourne très rapidement parce qu'elle est attirée. On crée un peu un effet cyclone et qui est attirée dans le trou noir. Et c'est cette matière-là qui se déplace pratiquement à la vitesse de la lumière. Et comme cette matière-là est en déplacement très rapide, elle est excessivement chaude. C'est une température, on parle de la matière en rotation autour qui peut atteindre jusqu'à 10 millions de degrés Celsius. Donc, tu comprends que c'est très lumineux, et c'est ce qui forme cette fameuse couronne autour du trou noir, qui s'appelle d'ailleurs l'horizon du trou noir. Là où c'est intéressant, cette histoire-là, et qui touche un peu le domaine du mythe et complot, c'est qu'à partir du moment où on avait l'hypothèse du trou noir, là maintenant on a une photographie d'un trou noir, il y a dans le domaine de la littérature de science-fiction notamment, toutes sortes de spéculations sur l'idée du trou noir. Et certains imaginent que en fait il y a deux hypothèses, et tu vois qu'elles sont assez fascinantes. Maintenant qu'on l'a, on le voit le trou noir, qu'y a-t-il au fond du trou noir? Alors on a plusieurs hypothèses. L'hypothèse, disons, qui est actuellement là, qui est supportée par la majeure partie des astrophysiciens, c'est qu'on a une étoile, donc on est en présence d'une espèce de cône qui a déformé le tissu, et au fond de notre cône, on a cette étoile excessivement massive qui attire vers elle toute la matière. Mais il y a d'autres spéculations qui sont tout à fait surprenantes. Et parmi les spéculations qu'on a proposées, une voudrait que ce trou noir, éventuellement l'étoile, soit tellement massive qu'elle aurait non seulement déformé le tissu de l'espace, mais elle aurait provoqué un trou dans ce tissu de l'espace. Et là, donc, elle aurait quitté, hein, elle n'est plus dans le cône est percé, mais évidemment, la force
donc, ce serait comme un passage vers une autre dimension?
T'as tout compris.
Donc, comme d'ailleurs, il n'y a pas eu un épisode à un moment donné de Star Trek, justement, où il pénétrait dans un trou noir puis il sortait genre par l'autre bout, là,
voilà,
par,
c'est ce que
par l'autre bout du cône. Là,
voilà,
c'est ça,
c'est
hein?
ce que je m'en allais te dire. Donc, c'est un truc qui fait fantasmer la science-fiction. Parce que si notre étoile a à ce point déformé le tissu qu'elle a passé au travers, tu comprendras que la force gravitationnelle est encore présente et elle risque de rester présente pendant des millions, sinon des milliards d'années. Donc, il y a cette espèce de tunnel. On pourrait le comparer, pour les gens qui nous écoutent, à une tornade, par exemple. Si tu étais en parachute, si tu étais à bord d'un avion, tu survoles la tornade et tu sautes avec ton parachute dans l'œil de la tornade.
Oui.
Ben, tu vas arriver au sol, parce qu'au bout, il n'y a rien. Tu comprends? Donc,
exact.
Ça n'est qu'un tourbillon. Donc, imagine-toi une espèce de tourbillon qui pourrait unir deux endroits de l'espace, deux endroits de l'univers, ou même peut-être un lien avec d'autres univers. Alors là, on ne parlerait plus de trous noirs, mais le trou noir se serait transformé en un trou de ver.
Un passage.
Et ce trou de ver, formé soit par un trou noir ou soit par une simple anomalie gravitationnelle, c'est ce qui fait fantasmer les amateurs de science-fiction, ce qui fait fantasmer les auteurs, et c'est ce qui fait fantasmer aussi, d'une certaine manière, les gens qui croient aux visites extraterrestres ou qui imaginent des super civilisations dans l'espace. L'une des grandes problématiques, c'est comment pourrait-on passer d'un point A à un point B en connaissant les immenses distances qui existent dans l'espace. Mais si on devait prouver éventuellement l'existence bien réelle de ces trous de ver...
C'est comme une coupure transversale à ce moment-là.
Voilà. C'est un peu comme prendre le métro. Hein? On le sait, si on doit se rendre d'un point A à un point B, on doit faire toute la circulation routière, la distance du point A au point B en surface en suivant les rues. Mais imagine-toi un corridor souterrain qui unirait le point A au point B. Et qui plus est, de plus en plus maintenant, les scientifiques ne parlent plus d'un univers, mais on parle d'un multivers. Donc, plusieurs univers qui pourraient coexister dans le vide. Donc, tout ce que l'on voit, toute la matière qu'on voit, nous, dans l'univers, qui est, que somme toute, il faut quand même le dire, la matière que l'on voit ne représente que 10 % de la masse de l'univers. Alors, imagine-toi qu'il y aurait à côté un autre univers.
Bien oui.
L'analogie, c'est un peu, imagine-toi un verre de champagne où chaque bulle serait un univers. Alors, imagine-toi toutes ces bulles dans notre verre de champagne qui, par des corridors, pourraient communiquer les uns entre les autres. Ça nous amène à des visions, des spéculations qui sont de l'ordre de la science-fiction. Et on comprend quand on voit des films comme Interstellar, par exemple, qui a pris l'affiche il y a quelques années, 2 ou 3 ans, où on voyageait comme ça à travers des trous noirs, à travers des trous de verre, permettait d'avoir accès à des univers inconnus. C'est une vision de l'univers tout à fait transformée de l'image que l'on pouvait avoir dans les années 50 et 60.
Mais tu sais, on peut trouver ça farfelu, mais le fait est qu'on sait pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur du trou noir.
Ah, t'as tout à fait raison. Donc, d'où la spéculation. L'hypothèse dominante dans le domaine de l'astrophysique, c'est qu'on a une étoile au fond qui est tellement forte qu'elle attire toute la matière vers elle. Mais jusque où? Comment peut-on... Le tissu de l'espace pourrait résister à quelle force gravitationnelle?
OK, mon Christian, ben merci.
Ça me fait plaisir, Bernard.
Tu nous amènes ailleurs. Je te souhaite un bon week-end.
Toi aussi.
Je remercie Larry Dufresne, Maryse Duchesneau. Soigne-toi, Maryse. Alexandra Marcoux, Valérie Beaudoin était là cette semaine. François Arnois également. Merci à vous, les auditeurs. Bonne fin de semaine. Paul s'en vient.